Eh oui, 379 ans aujourd'hui pour Montréal et ça me fait plaisir d'en parler avec Taïka Baillargeon, directrice adjointe des politiques à héritage Montréal à travers les ensembles industriels qui font partie du patrimoine montréalais. Bonjour Taïka Baillargeon.
Bonjour, bonjour. Merci. Comment allez-vous?
Mais ça va bien. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais savoir...
Ça fait très plaisir.
D'abord, Taïka, c'est un prénom tout à fait original.
Merci bien, c'est gentil, je le dirai à mon père.
Ben, félicitations à votre père pour avoir eu cette imagination-là. Alors, Héritage Montréal, Taïka, d'abord et avant tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission de l'organisme?
Oui, ben, Héritage Montréal existe déjà depuis 45 ans, plus puis notre mission, c'est vraiment de sensibiliser donc les gens sur le patrimoine de la grande région métropolitaine, mais aussi donc de travailler à sa préservation et sa mise en valeur, donc de façon plus large. Donc, voilà, en gros, c'est ça.
Et vous, vous êtes à Héritage Montréal en tant que directrice adjointe des politiques. Quel est votre rôle exactement?
Oui. Bien, c'est justement d'influencer les politiques qui entourent la préservation du patrimoine de façon plus générale, mais aussi la pensée, ou je dirais même le politique, parce que
Oh, je vous ai perdu un peu, Taïka.
Ah, désolée, je ne sais pas si on a un problème de connexion.
Oui, je ne sais pas, il y a eu comme un... Je vous entendais, mais...
Je vais me déplacer pour améliorer peut-être la chose.
OK, là, ça va mieux. Alors, donc, oui, influencer le politique, vous disiez?
Ben oui, parce que le patrimoine, c'est vraiment quelque chose qui appartient à notre vie, tout ça, puis il faut faire des efforts, il faut... c'est un peu le côté activiste, disons, de l'organisme, de vraiment sensibiliser les gens, les politiques, les discours publics aussi, pour encourager qu'on en parle, puis qu'on trouve les moyens de le garder aussi.
Est-ce que vous constatez une évolution des pensées à ce sujet-là, au sujet du patrimoine?
Oui, beaucoup quand même. Puis je pense plus on en parle, même si parfois ou très souvent, c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles de démolition ou de vacances vraiment problématiques. Il reste qu'on sent qu'il y a justement le travail de sensibilisation, je pense, fait son effet. Puis avec la pandémie, tu sais, on voit aussi que les gens s'attachent de plus en plus à leur environnement, à leur maison, entre autres, puis à leur milieu de vie. Mm-hmm. Puis on sent que justement, il y a un intérêt qui se développe dans cette réalité-là. Je pense que le fait qu'il y ait eu beaucoup de démolitions dans les dernières années ont fait que les gens ont réalisé que on pouvait pas juste laisser les choses aller, en fait.
Oui.
Si on laissait les choses aller, ben c'est ça qui arrivait. Puis comme ces bâtiments-là sont porteurs d'une mémoire qui disparaît avec eux.
Mm-hmm.
Donc, si on ne les garde pas, bien, on perd cette mémoire-là.
Mais qu'est-ce qui est important pourquoi c'est important de préserver la mémoire?
Plusieurs raisons. Bien, d'abord, la mémoire des lieux, c'est beaucoup lié à l'identité. Donc, chez nous, on a une histoire. Bien, cette histoire-là, elle se transcrit dans des bâtiments qu'on a construits qui représentent des idéologies à travers le temps. Vous avez un peu annoncé les couleurs qu'on allait parler du patrimoine industriel. Ben, justement, le patrimoine industriel de Montréal, il nous parle d'une histoire qui n'est plus, on n'est plus dans cette grande période d'industrialisation, et pourtant, Montréal a été très importante dans l'histoire de l'industrialisation en Amérique du Nord. Ça a été une plaque tournante, ça a été très important pour son développement économique, et ces bâtiments-là, ils nous parlent de cette histoire-là, ils nous parlent de la mémoire des ouvriers, ils nous parlent de comment on faisait les choses à l'époque. Il y a dans ces bâtiments-là des vestiges techniques d'ingénierie qui sont issus d'inventions tout à fait montréalaises qui ne se font plus. Donc, il y a tout un apprentissage aussi qui est présent dans ces bâtiments-là et qu'on mérite de garder pour justement les générations futures. Il y a aussi tout un pan qui est lié au développement durable.
Oui.
Les bâtiments, le bâtiment le plus vert, c'est celui qui est déjà là. On le dit souvent. Les études le montrent aussi là, au niveau plus de l'empreinte carbone. Un bâtiment qui est déjà là, mais qui va être restauré, va être très souvent beaucoup moins cher, puis elle va avoir un impact sur l'empreinte carbone beaucoup moins élevé qu'un bâtiment LEED nouveau qu'on construirait. Donc, il y a vraiment plusieurs valeurs à préserver à travers la préservation donc de ce patrimoine-là.
Ah oui, c'est riche en savoir, c'est riche à plusieurs points de vue.
Exact.
Alors
exact.
Aujourd'hui, Taïka, on va justement s'attarder, là, vous en avez parlé, moi aussi d'ailleurs, sur les ensembles industriels ou le patrimoine industriel de Montréal. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont vraiment des lieux qui existent toujours dans la ville?
Bien, effectivement, Montréal, bon, on a perdu beaucoup de patrimoine industriel à travers les années, notamment dans les années 80, parce qu'il y avait un manque de connaissances puis un manque d'intérêt aussi pour un patrimoine qui était souvent lié à peut-être la contamination ou ce genre de choses-là qui sont perçues de façon négative, mais qui se règlent, hein, qui peuvent être gérés, là, ce type de problème-là. Mais bref, ça avait comme une mauvaise connotation. Et puis, il y a beaucoup de lieux ou d'ensembles patrimoniaux industriels ou de bâtiments uniques industriels qui ont été comme
détruits,
un peu laissés en plan, abandonnés dans des grands secteurs souvent. Qui ont été comme abandonnés. Il y en a qui sont toujours en fonction aujourd'hui, dont des très anciens qui sont toujours en fonction, mais c'est quand même plus rare parce qu'il y a eu une désindustrialisation assez importante à partir des années 60-70. Et donc aujourd'hui à Montréal, on a on pourrait parler de, il y a différentes choses. Il y a des bâtiments uniques, il y a des bâtiments qui sont juste le bâtiment, comme par exemple la station de pompage Craig, mais il y a aussi des grands ensembles. Puis là, c'est intéressant parce que la Ville de Montréal est en train de travailler à développer des outils pour les requalifier, ces grands ensembles-là. Puis c'est ça que je trouve très intéressant parce que c'est une opportunité de densifier puis de développer des nouveaux secteurs parce que ces secteurs-là qui sont à requalifier, donc sont vacants.
Alors, quand
ils sont vacants
souvent
depuis plusieurs années.
Ah oui. Quand vous dites requalifier les ensembles industriels ou...
C'est leur donner un nouvel usage, dans le fond.
OK.
C'est les rénover ou les restaurer ou les transformer de manière à leur donner un nouvel usage.
Ah oui, comme on va faire avec, mais c'est pas industriel, là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais les hospitalières, la cité hospitalière qui va se transformer.
Exactement. C'est exactement le même genre de principe, mais là, avec des ensembles industriels. Mm-hmm. Puis pourquoi on parle d'ensemble? C'est que justement, il y a des sites, des complexes qui ont plus d'un bâtiment. Parce que, par exemple, à Molson,
on brassait de la bière.
De sites, là, mais effectivement, où on brassait de la bière.
Près de l'ancienne tour de Radio-Canada.
Exactement.
Oui, oui.
Devant, à l'entrée de la ville, si on entre par le pont Jacques-Cartier. Mais sur ce site-là, il y avait une traque de chemin de fer, il y avait plusieurs bâtiments qui servaient à différentes fonctions. Dans un complexe comme ça, il pouvait y avoir parfois des écuries, parfois traque de chemin de fer, parfois des ponts roulants, parfois il pouvait avoir une forge, il pouvait avoir, tu sais, il y avait différents bâtiments avec différentes fonctions, donc c'était pas juste des bâtiments uniques, mais des grands ensembles.
Et différents métiers également.
Exactement aussi, différents métiers. Il pouvait avoir des boilermakers.
Des boilermakers.
Il y avait différentes choses. Oui, ben, on parlait beaucoup en anglais à l'époque, là. Mais il y avait beaucoup de métiers différents qui étaient. Ça dépend aussi beaucoup des ensembles, qu'est-ce qu'on produisait dans ces ensembles, etc. Là. Donc, on pourrait rentrer dans le détail, mais il faudrait vraiment traiter chaque ensemble.
Il va falloir vous réinviter. Mais Taïka, oui, là, vous parlez de Molson. Qu'est-ce qui arrive actuellement avec Molson? Là?
On sait que Molson est déménagé sur la
Longueuil.
Il y a eu un rachat donc de l'ensemble. Puis, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que Molson est vraiment impliqué dans le projet parce que l'importance de la famille Molson à Montréal, je pense qu'elle est bien connue. Puis, ils ont vraiment voulu s'investir aussi malgré leur départ de la brasserie. Il y a toute une volonté de vraiment... ramener la mémoire préserver la mémoire de ces lieux. Il va y avoir des transformations sur le site, certainement des nouvelles constructions, puis peut-être quelques démolitions qui seront nécessaires aussi, mais on vise vraiment de de créer un nouveau secteur avec différents services. En principe, il devrait y avoir un pôle civique également à l'intérieur, donc des services pour les citoyens. Puis on veut aussi redonner accès au fleuve. Mais pour ça, il faudrait effectivement probablement parler avec les promoteurs du projet, parce que le projet est en cours, donc il n'est pas encore tout à fait développé. Mm-hmm. Mais si les citoyens s'intéressent à la question, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne, puis ils peuvent aussi s'adresser là, au groupe Sélection Edmontonie, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont actuellement présentes, donc on peut s'informer. Là.
Okay. Le groupe Sélection Edmontonie, c'est les responsables de la transformation du projet?
C'est ça, exactement.
Okay.
Mais il faut aller s'informer un petit peu plus parce qu'évidemment, chaque projet va être traité différemment. Il y en a qui ont déjà des nouveaux propriétaires, des nouveaux promoteurs qui ont déjà un projet en tête. Il y en a d'autres que tout est à développer.
Mm-hmm.
Donc,
donnez-nous d'autres exemples.
Le silo numéro 5.
Dans le Vieux-Montréal.
Dans le Vieux-Montréal, qui est vacant depuis bien longtemps. Mais il y a aussi des lieux qu'on connaît peut-être moins, comme par exemple la Berliner Grammophone, qui est une institution historiquement où il y avait des studios d'enregistrement là-dedans. Maintenant, c'est vacant.
Ah,
mais
oui.
Là, il y en a tellement. Justement, la Ville de Montréal a fait une consultation. Ça avait lieu la semaine dernière. Tous les documents sont disponibles en ligne,
mm-hmm.
pour justement essayer d'orienter de faire ressortir des orientations pour la requalification. Mais dans cet exercice-là, eux, ils ont reconnu 46 ensembles industriels de valeur exceptionnelle.
Ah oui, j'ai ça donc, devant moi, là, les ensembles industriels d'intérêt patrimonial exceptionnel.
C'est ça. Donc, c'est sûr que tout n'est pas là, mais ça fait déjà beaucoup. Puis là-dedans, vous allez voir la Canada Malting Plant qui est à Saint-Henri. Vous allez voir l'incinérateur des Carrières, l'incinérateur Dixon qui est juste à l'entrée aussi de la ville, pas sur Dixon.
La robinetterie Crane.
Oui, il y a vraiment 46 ensembles, donc il y a beaucoup de choses.
Ouais.
Mais c'est aussi des choses très variées, donc qui ont produit des produits très différents. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre aussi le visage de l'ère industrielle à Montréal, à quel point c'était varié,
mm-hmm.
à quel point c'était riche. Puis c'est quand même une période qui a duré très longtemps. Là. Ça commence assez tôt chez nous, puis ça se développe aussi selon justement comment l'industrialisation se développe. Donc, au départ, on est plus proche du canal de la Chine parce qu'on utilise l'hydroélectricité. Puis après ça, ça se déplace avec les tracts de chemin de fer. Donc là, on retrouve plus des choses autour de Rosemont-Petite-Patrie. Puis après ça, ça va suivre plutôt le réseau routier. Donc, il y a une évolution historique aussi à suivre avec ces bâtiments-là. C'est très intéressant.
Ouais, je comprends. Ça c'est très riche en informations de toutes sortes. Il y a Seagram également, il y en a beaucoup, là, comme vous dites. Si on a des idées, il y a des manques dans ces informations-là, est-ce qu'on peut communiquer avec vous, avec la Ville de Montréal? Comment ça se passe?
Oui, absolument. C'est sûr que là, il y avait, dans le contexte de cette consultation-là, c'était ouvert à tous, puis les gens pouvaient faire des propositions.
OK, c'est trop tard. D'accueillir
les propositions. Ouais. Là, il est trop tard, mais en même temps, il n'est jamais trop tard pour contacter la dite commission qui a mis en place ces consultations-là, qui, elle, est toujours
ouverte.
Qui travaille toujours sur le sujet.
Ouais.
Puis nous aussi, comme on travaille beaucoup sur la mise en valeur puis l'appréciation du patrimoine industriel, donc il y a moyen aussi de communiquer avec nous, puis on peut faire les ponts avec les bonnes personnes.
Mm-hmm. Et je regardais les ensembles industriels, il y a des choses qui sont belles à l'œil, mais il y en a d'autres où tu dis, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est pas nécessairement la beauté qui guide les choix.
Non, mais c'est sûr que la beauté, ça peut être intéressant, mais en même temps, le goût, ça évolue beaucoup. Hein? Donc,
mm-hmm.
Peut-être que dans les années 80-90, on trouvait ça inintéressant. Aujourd'hui, en Europe, comme aux États-Unis ou même en Amérique latine, il y a un intérêt de plus en plus grand pour ces ensembles-là. Puis, il y a des exemples extraordinaires à travers le monde de requalification très, très intéressantes. Il faut dire que ces bâtiments-là sont souvent d'une volumétrie très particulière qui est, tu sais, une espèce de volumétrie massive. C'est très impressionnant. Donc, si on est capable de vraiment le mettre en valeur, tu sais, on pourrait s'imaginer un secteur qui est très verdoyant, un grand parc où il y a des immenses structures très intéressantes. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est si on y a accès, parce que là, en ce moment, on n'y a pas accès à ces lieux-là. Mais si on y a accès, par exemple, si on avait accès au site de la Molson, mais on se promènerait à travers 100 ans d'évolution industrielle. Mm. Puis sur les bâtiments, on le voit visuellement, l'évolution historique. On voit les changements du savoir-faire à travers le temps.
Ce sont ça, des genres de musées, finalement.
Oui, exactement. Ouais. C'est vraiment ça. Puis à l'intérieur, comme à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ils ont souvent de l'équipement technique.
Oui. Alors, ben, vous nous donnez envie d'aller de l'avant dans ces recherches-là. Donc, on peut aller sur le site de la Ville de Montréal. À Héritage Montréal, vous donnez l'information aussi sur les ensembles industriels?
Oui, absolument.
OK. Bien, Taïka Bayarjon, vous étiez très intéressante, puis on garde votre nom en banque. On va vous réinviter si ça vous intéresse.
Ah oui, absolument.
Bien, bonne journée. Et puis,
bonne journée à vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Ça nous a fait plaisir. Directrice adjointe des politiques à Héritage Montréal.